8h38 minutes. Fire and Fury, c'est le titre de ce livre qui est sorti la semaine dernière. C'est un livre du journaliste Michael Wolff. En fait, ce sont les confidences de Steve Bannon qui y est allé de toutes sortes de confidences d'ailleurs, au point de dire que le fils de Donald Trump Jr., qui est allé rencontrer d'ailleurs dans l'édifice de la Trump Tower un représentant du gouvernement russe, que ce geste était de la trahison, ça secoue le Parti républicain, justement, pour faire le point sur les conséquences de la parution de ce livre, nous accueillons le professeur Norman Cornett. Bonjour, professeur Cornett.
Bonjour, monsieur Gaillou. Vous avez raison de souligner tout l'aspect de la trahison. Bannon a accusé Donald Trump Jr. justement de la trahison. Hier, il a changé son discours en disant « Non, je voulais dire Paul Manafort », qui lui est déjà sous les accusations suite à l'enquête de Robert Mueller et du FBI. Mais il n'a pas pour autant nié cette citation. Or, ce qui arrive maintenant, ironiquement, c'est que la sortie, la parution de ce livre « Fire and Fury » par Michael Wolff a eu l'effet opposé. Il a rallié les républicains, et pour cause. Parce que là, maintenant, on n'a plus l'épée de Damoclès qui est par-dessus la tête des primaires républicains. Bannon, justement, lui, parlait pratiquement « fire and fury ». Il disait qu'il allait cibler les sénateurs, les courses pour mi-mandat. Eh bien, il en sort de tout cet épisode, il en sort diminué, affaibli et renié par la famille Mercer. La famille Mercer qui a donné des millions et des millions de dollars à Breitbart News. Il est même question qu'on oblige Steve Bannon à quitter que le conseil d'administration, parce que c'est une question d'argent, les médias américains quand même. Et là, j'ai l'impression qu'on observe une pièce de théâtre par Shakespeare dont le titre c'est Jules César. Et que disait César alors qu'on l'a assassiné dans le Sénat? Un de ses meilleurs amis, un de ses plus proches conseillers, eh bien, César dit avant de mourir, es-tu Brutus? Eh bien, Bannon est devenu Brutus aux yeux des républicains, aux yeux des partisans de Donald Trump. Et c'est d'autant plus ironique parce que c'est lui maintenant, Monsieur Gaillou, qui passe pour traître et non pas Donald Trump Jr. Mais là où ça devient très grave, c'est que suite aux extraits, aux témoignages et des entrevues qu'a fait Michael Wolff, suite à d'autres journalistes qui veulent aller au fond de l'affaire, l'enquête de Robert Mueller, d'abord, c'était la question de la collusion entre la campagne Trump et la Russie. Et Paul Manafort, on le sait, il a des liens très, très étroits avec la Russie. Mais là où ça devient beaucoup plus grave dans le cas de Donald Trump, on parle ouvertement maintenant que Robert Mueller et le FBI vont exiger que le président actuel, Donald Trump, témoigne, peut-être même en personne, en tête à tête avec Robert Mueller. Et cette fois-ci, l'enquête s'est élargie. On ne parle plus seulement de la collusion avec la Russie, mais spécifiquement de l'entrave à la justice de la part de l'administration Trump, sinon de Trump lui-même. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce qu'on sait maintenant que le conseiller de la Maison-Blanche, Don McGahn, il a reçu l'ordre de Trump lui-même d'empêcher Jeff Sessions, qui est procureur général, n'est-ce pas, de se récuser de cette enquête de Robert Mueller. Et on apprend par des sources différentes que là, l'enquête peut viser justement cette entrave à la justice. Et je rappelle à l'auditoire de Radio VM, c'était ça qui a causé la chute de Richard Nixon.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, on craignait que Donald Trump, finalement, licencie Robert Mueller, mais ça aurait été finalement son arrêt de mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette controverse de ce livre, Michael Wolff n'a pas non plus une très, très grande crédibilité. Robert Mueller est toujours aussi muet.
Oui, et pour cause, parce qu'il ne veut pas, mettre en danger les conclusions de son enquête. Mais là où ça devient très grave, Monsieur Gayoux, c'est que la semaine dernière, il y avait trois représentants républicains, Chris Stewart de l'Utah, Jim Jordan de l'Ohio et Mark Meadows du Caroline du Nord. Ils ont publié une lettre ouverte dans le Washington Examiner, puis ils demandent à Jeff Sessions de démissionner comme ministre de la Justice. Et pourquoi? Le fait qu'il s'est récusé veut dire que Jeff Sessions n'a pas un droit de regard, encore moins d'agir dans l'enquête de Robert Mueller. Pourquoi est-ce qu'on parle là maintenant de remplacer Jeff Sessions pour qu'il y ait un nouveau procureur général que lui puisse justement non seulement regarder l'enquête et agir, voire même faire démissionner, congédier Robert Mueller et son équipe. Et c'est pour cela que je mentionne Richard Nixon. On se souvient, en tant qu'Américain, on se souvient tous en 1973 de ce qu'on appelle maintenant le massacre du samedi soir. Quand Richard Nixon s'est aperçu que le procureur spécial de Watergate, Archibald Cox, se rapprochait de plus en plus à la Maison-Blanche, à Nixon lui-même, il a ordonné aux deux plus grands du département de la justice de congédier Archibald Cox. Et eux se rendaient compte, s'ils faisaient cela, c'était eux qui seraient responsables pour l'entrave de la justice, et ils ont démissionné. Or, on voit qu'il y a un mouvement maintenant. Comment va-t-on naviguer à travers ce piège de l'entrave à la justice qui pourrait mettre en cause la présidence même de Donald Trump?
Mais là, si Robert Mueller, en terminant là, en 30 secondes, si Robert Mueller finalement demande à une audience avec Donald Trump, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quoi, la première fois qu'un président américain est cité par un procureur spécial?
Non, parce que Bill Clinton, rappelons que Bill Clinton témoigner pendant 4 heures devant les caméras. Et la façon, et l'enjeu, déjà l'équipe légale de Donald Trump négocie dans l'éventualité que Trump ou doit témoigner ou doit dire quelque chose. Est-ce que ça sera des réponses écrites? Est-ce que ça sera ce qu'on appelle affidavit, où il jure de ne pas avoir qu'il n'y a pas eu de collision ni d'entrave à la justice? Mais là où les grands avocats se prononcent sur cette possibilité qui est en préparation là, c'est qu'ils disent c'est le langage corporel qui parle beaucoup, et c'est certain que Robert Mueller et son équipe vont demander un tel témoignage en personne avec Donald Trump, dans la mesure qu'ils peuvent l'exiger. Et c'est là où ça devient très risqué de la part. Si Trump se contredit,
mais c'est ça. Là, autrement dit, ça, ce serait la dernière étape avant le dépôt de ses conclusions, parce que quand il est rendu à interroger le président, c'est qu'il a déjà en main à peu près toutes les conclusions et les preuves, là.
Mais c'est très sérieux. Comme dit l'historien des présidences américaines, Robert Dalek, le fait que la première année d'un président soit autant attaqué, autant enquêté, eh bien ça, c'est sans précédent. Et c'est absolument dévastateur pour cette administration. Et je vous donne la comparaison. C'est comme un avion qui est sur la piste depuis un an et qui ne décolle toujours pas. Et les républicains, c'est la raison que maintenant, eux, ils veulent mettre en arrière toute cette enquête de Robert Mueller, parce qu'ils savent que les élections mi-mandat s'en viennent là en moins d'un an. S'ils ne réalisent pas le programme républicain, alors qu'ils sont majoritaires dans le Sénat et dans la Chambre des représentants, eh bien là, ils vont perdre comme ils ont perdu dans l'Alabama.
Ouais.
Et qui plus est, Bannon, quand il a mis tous ses œufs dans le panier de Roy Moore, c'était son Waterloo.
Ben, on va suivre ça quand même. Fort intéressant. Et on ne sait pas d'ici combien de temps cette dernière étape, donc la comparution de Donald Trump, pourrait survenir. Mais si on commence à chuchoter ça à Washington, c'est probablement parce que c'est sur le point de survenir. Mais, professeur Norman Cornett, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous, M. Gailloux.
Merci infiniment. Et dans un instant, on va chuchoter ce qui s'est passé avec le port de Montréal. Ça a été une très bonne année parce qu'il y a eu cette cérémonie-là de la canne à pommeau d'or. Eh bien, on va faire le point justement sur une activité portuaire apparemment exceptionnelle.